Plus tard, beaucoup plus tard, Teg devait éprouver de la difficulté à se rappeler chaque détail du processus d'éveil qu'il avait appliqué pour obéir aux ordres. Il savait qu'il avait continué d'agir selon les instructions, mais sa mémoire était partie ailleurs, laissant son corps libre d'exécuter automatiquement les consignes. Curieusement, ses souvenirs truqués s'étaient reportés sur un autre épisode où la désobéissance jouait le premier rôle. La révolte de Serbol. Il était bien plus jeune à cette époque, mais déjà Bachar, auréolé d'une formidable réputation. Il avait revêtu son plus bel uniforme, sans aucune décoration, l'intention était symbolique, et il s'était avancé seul, sous le soleil torride des plaines de Serbol, déjà éprouvées par de durs combats. Seul et sans armes à la rencontre des révoltés. Beaucoup parmi les attaquants lui devaient la vie d'une manière ou d'une autre. La plupart lui avaient naguère fait sincèrement allégeance. Ils étaient à présent dans un état de désobéissance hostile, et la présence de Teg sur le chemin de ses guerriers, prêts à tout, voulait dire « Je ne veux pas porter des médailles qui parlent de ce que j'ai fait pour vous quand nous étions des compagnons. Je ne veux rien avoir sur moi qui dise que je suis des vôtres. Je porte seulement l'uniforme qui proclame que je suis encore le Bachar. Tuez-moi si vous êtes capable de pousser la désobéissance jusque-là. » Quand la plupart des attaquants eurent déposé leurs armes en s'avançant vers lui, certains de ceux qui les commandaient mirent genoux à terre devant leur ancien Bachar, qui les réprimanda en ces termes.
« Vous n'aviez pas besoin de vous incliner devant moi, ni de mettre genoux à terre. Vos nouveaux dirigeants vous enseignent de mauvaises manières. »
Plus tard, il devait avouer aux révoltés qu'ils partageaient certains de leurs griefs. Ceux de Serbol avaient subi de graves injustices. Mais il devait les avertir aussi.
L'une des choses les plus dangereuses de l'univers, c'est un peuple ignorant armé de revendications réelles. Mais c'est encore bien moins redoutable qu'une société intelligente et informée qui veut faire aboutir ses revendications. Les dégâts qu'une intelligence résolue et hostile peut causer, vous ne pouvez pas même les imaginer. Le tyran n'est qu'une image paternelle et bienveillante à côté de ce que vous allez déchaîner.
Tout cela était vrai naturellement, mais dans un contexte Bene Gesserit. Et ce n'était guère d'un grand secours pour ce qu'il avait à faire, sur ordre, au Gola d'Uncan Idaho. Infliger une torture physique et mentale à une victime presque impuissante. Le moins facile à oublier, c'était le regard qu'avait eu Duncan quand il avait levé les yeux vers lui, sans changer d'intensité, même au moment où il avait poussé son cri final.
« Maudit Leto, que faites-vous ? »
« Il m'a appelé Leto. » Teg recula de deux pas, sa jambe gauche lui causait des élancements douloureux à l'endroit où Duncan l'avait frappé. Il se rendit compte qu'il était haletant, à court de force. Il était bien trop vieux pour de telles démonstrations, sans compter qu'il n'y avait guère de quoi être très fier de lui. Il reconnaissait cependant la nécessité du processus. Il n'ignorait pas qu'autrefois, on éveillait la conscience des Golas en les conditionnant, à leur insu, à tenter d'assassiner quelqu'un qu'ils aimaient. Le psychisme d'un Gola, démantelé puis forcé de se reconstituer, gardait toujours cette cicatrice psychologique. La nouvelle technique laissait la cicatrice à celui qui administrait le traitement. Lentement, luttant contre ses muscles et ses nerfs endoloris, Duncan se laissa glisser de la table et s'appuya tremblant au dossier de sa chaise en fixant Teg de son regard terrible. Les instructions disaient « Vous demeurerez immobile et impassible. Laissez-le vous regarder tant qu'il voudra. » Obéissant aux instructions, Teg ne bougeait absolument pas. Le souvenir de la révolte de Serbol lui avait quitté l'esprit. Dans les deux cas, il savait parfaitement ce qu'il faisait. C'était dans cette mesure que les deux affaires se ressemblaient. Il n'avait asséné aux rebelles aucune vérité ultime, si la chose existait. Il en avait dit juste assez pour les faire rentrer à la bergerie. La souffrance, les conséquences prévisibles. C'est pour votre propre bien? Était-ce vraiment pour son bien, ce qu'on était en train de faire à ce Gola Duncan Idaho? Teg se demandait ce qui se passait en ce moment dans l'esprit conscient de Duncan. On lui avait donné toutes les explications connues sur le processus, mais il voyait bien que les mots ne suffisaient pas. Le regard et l'expression de Duncan témoignaient d'abondance du tourbillon intérieur qui était le sien. Ses joues et sa bouche étaient crispées en une hideuse grimace, Ses yeux ne cessaient de rouler d'un côté puis de l'autre. Avec une lenteur subtile et calculée, le visage de Duncan s'apaisa. Ses mains continuaient cependant à trembler. Il sentait tout son corps frémir, comme si c'était quelque chose de lointain, de douloureux, mais qui était arrivé à quelqu'un d'autre que lui. Pourtant, il était bien là, où qu'il fût en réalité, et c'était bien de lui qu'il s'agissait. Mais ses souvenirs ne voulaient pas s'enclencher. Il se sentait soudain déplacé dans une enveloppe de chair trop jeune, incompatible avec son existence antérieure. Les crispations et les grimaces se situaient maintenant en dedans, à la mesure de ses efforts pour essayer de comprendre ce qui lui arrivait. Les instructions de Teg lui disaient « Le golem mettra des barrières au retour de ses souvenirs antérieurs. Certains reviendront aisément, d'autres mettront plus de temps à émerger. Mais il n'y aura pas de véritable enclenchement tant que l'instant de sa mort première ne lui sera pas revenu en mémoire. » Et Beyonda avait ensuite donné à Teg toutes les explications qu'elle pouvait sur cet instant crucial.
« Les Sardaukars, »
murmura Duncan en regardant autour de lui les symboles arconènes dont le non-globe était truffé. Les troupes d'élite de l'empereur portant des uniformes arconènes. Comme ils ont dû haïr cette idée. Et un rictus sauvage lui tordit de nouveau la bouche, sous le regard attentif de Teg.
« Ils m'ont tué. » reprit Duncan.
Sa voix était d'autant plus glaciale qu'il affirmait cela sans élever le ton, sans la moindre émotion. Puis un violent haut-le-corps le saisit et il cessa de trembler.
« Il y en avait une douzaine au moins dans cette petite pièce, »
reprit-il en fixant son regard sur Teg.
« L'un d'eux m'a eu d'un coup de fendoir, en plein dans la tête. »
Il hésita, sa gorge s'agitant convulsivement, les yeux toujours rivés sur le bachar.
Est-ce que j'ai donné suffisamment de temps à Paul pour qu'il s'échappe?
Vous répondrez sincèrement à toutes ces questions. Il a pu s'échapper. Ils étaient arrivés maintenant à l'instant de vérité. Où les Tleilaxus étaient-ils procurés les cellules Idaho? D'après les tests du Bene Gesserit, elles étaient bien originales, mais un doute subsistait. Les Tleilaxus avaient fait subir à ce gars-là un traitement particulier. Ses souvenirs pouvaient constituer une clé précieuse à cet égard.
« Mais les Harkonnen, »
commença Duncan au moment même où ses souvenirs de la citadelle s'enclenchaient.
« Oui, oh oui. »
Un éclat de rire féroce le secoua. Il poussa un cri de victoire sonore à la mémoire d'un baron Vladimir Harkonnen depuis longtemps trépassé.
« Je te l'ai bien rendu, baron. Je t'ai largement fait payer tous tes forfaits. »
« Tu te souviens de la citadelle ?» Et de ce que nous t'y avons appris ? Demanda Teg.
Une moue de perplexité plissa profondément le front de Duncan. La douleur morale était aux prises avec la souffrance physique. Il hocha la tête en réponse à la question de Teg. Il y avait deux existences distinctes, l'une lointaine, inaccessible, derrière le mur des cuves Axlotl, et l'autre. Duncan se sentait incomplet. Quelque chose en lui demeurait retranché. L'éveil n'était pas encore accompli. Il regarda brusquement Teg avec colère. Y avait-il autre chose? Teg s'était montré brutal. Cette violence était-elle nécessaire? Était-ce ainsi qu'il fallait obligatoirement rétablir la mémoire d'un gola? Duncan secouait la tête d'un côté puis de l'autre, comme un gros animal blessé en face du chasseur.
Tu as tes souvenirs au complet? Insista le bachar.
Au complet? Oh oui. Je me rappelle gameux à l'époque où on l'appelait encore Giedi Prime. Le trou d'enfer gorgé d'huile et de sang de l'Impérium. Oui, Bachar, j'ai été votre élève attentif, commandant d'unité.
De nouveau, il éclata de rire, rejetant la tête en arrière dans un geste étonnamment adulte pour un corps si jeune. Teg ressentit l'afflux soudain d'une satisfaction profonde, bien plus profonde qu'un simple soulagement. Tout avait marché comme elle le lui avait dit.
« Est-ce que tu me détestes ? » demanda-t-il.
« Vous détestez ? « Ne vous avais-je pas dit que je vous en serais reconnaissant, au contraire ?»
Abruptement, Duncan porta ses deux mains à hauteur de son visage pour les regarder. Puis il baissa les yeux vers le reste de son corps juvénile.
« Quelle tentation !»
murmura-t-il en laissant retomber ses mains. Et il se mit à détailler le visage de Teg pour étudier la ressemblance.
« Les Atreides !» murmura-t-il. « Vous êtes bien tous foutrement pareils. »
« Pas tous, » répliqua Teg.
« Je ne parlais pas de votre aspect.
Bachar.
Le regard de Duncan se perdit dans le vague.
Je vous ai demandé mon âge.
Il y eut un long silence, puis...
Dieu des abîmes. Tant de temps s'est écoulé.
Teg lui dit ce qu'on lui avait ordonné de dire.
Le Bene Gesserit a besoin de toi.
Dans ce corps de jeune garçon, que suis-je censé faire?
Franchement, je l'ignore, Duncan. Mais le corps est en train de mûrir, et je présume qu'une certaine révérende mère te donnera bientôt toutes les explications voulues.
Lucille?
Brusquement, Duncan leva la tête vers le plafond ouvragé, puis regarda le mur où se trouvait l'horloge baroque. Il se souvenait qu'il était venu ici avec Teg et Lucille. C'était le même endroit. Mais tout semblait différent.
Les Harkonnen,
murmura-t-il en jetant un regard noir à Teg.
Savez-vous combien de membres de ma famille les Harkonnen ont torturés et tués?
Les archivistes de Taratsa m'ont remis un rapport.
Un rapport? Vous croyez qu'on peut décrire ces choses avec des mots?
Non, mais c'est la seule réponse que je pouvais donner à ta question.
Sacré Bachar, pourquoi faut-il que vous autres Atreides soyez toujours si francs et si intègres?
Je crois que c'est héréditaire.
C'est parfaitement exact.
La voix était celle de Lucille et provenait de derrière Teg. Il ne se retourna pas. Depuis combien de temps était-elle là à écouter ce qu'il disait? La révérende mère vint se placer aux côtés de Teg, mais son attention demeurait fixée sur Duncan.
« Je vois que vous avez réussi, Miles, » dit-elle.
« J'ai suivi à la lettre les ordres de Taratsa. »
« Vous avez été habile, Miles, plus habile que je ne vous en aurais cru capable. C'est votre mère qui aurait dû être sévèrement châtiée pour les connaissances qu'elle vous a inculquées. »
« Ah, Lucille, la séductrice !»
railla Duncan après un bref coup d'œil à Teg.
« Oui, bien sûr. À présent, je suis capable de répondre tout seul à mon autre question. Ce qu'elle était censée faire. »
« On les appelle des imprégnatrices, » déclara Teg.
« Miles, » fit Lucille, « si vous m'avez compliqué la tâche au point d'empêcher l'exécution de mes ordres, je vous ferai rôtir à petit feu sur une broche. »
Sa voix dépourvue d'inflexions émotives fit parcourir un frisson sur l'épine dorsale de Teg. Il savait qu'elle parlait au figuré, mais les implications contenues dans sa menace n'en étaient pas moins réelles.
« Un banquet de représailles !» s'exclama Duncan. « Quelle agréable perspective !»«
Il n'y a rien de très romantique dans ce que nous t'avons fait, Duncan, » lui dit Teg. « J'ai accompli pour le Bene Gesserit plus d'une mission dont je n'avais pas lieu d'être fier. » Mais aucune ne m'a jamais répugné à ce point.
« Silence !»
ordonna Lucille, utilisant la voix à pleine puissance.
Teg laissa la vague le submerger puis le dépasser comme sa mère le lui avait enseigné. Puis il déclara calmement
« Ceux d'entre nous qui donnent leur entière loyauté à l'ordre n'ont qu'une préoccupation, et c'est la survie du Bene Gesserit, non pas la survie d'un individu quel qu'il soit, mais celle de l'ordre en tant que tel. » Les machinations, les tromperies, ce ne sont que des mots creux face à la survie du Bene Gesserit.
« C'est une fichue mère que vous aviez, Miles !»
grogna Lucille en lui faisant le compliment de ne pas dissimuler sa fureur. Duncan dévisagea la révérende mère. Qui était-elle? Lucille? Il sentait ses souvenirs se mettre d'eux-mêmes en branle. Lucille n'était pas la même personne, pas la même du tout. Et cependant, certains détails, pièce par pièce, étaient les mêmes. La voix, les traits du visage. Soudain, il revit le visage de femme qu'il avait aperçu sur le mur de sa chambre, à la citadelle.
Duncan, mon Duncan adoré.
Les larmes jaillirent des yeux de Duncan.
Sa propre mère, encore une victime des Harkonnen. Torturée, pire encore, peut-être.
Jamais plus son Duncan adoré ne devait la revoir.
Dieu, que ne donnerais-je pas pour pouvoir en étrangler un maintenant?
Gémit Duncan. Une fois de plus, il concentra son attention sur Lucille. Ses larmes, brouillant les traits, rendaient la comparaison plus facile. Le visage de Lucille devint celui de Dame Jessica, la bien-aimée de l'Éto Atréide. Duncan jeta un regard à Teg, puis de nouveau à Lucille, secouant ses larmes dans le mouvement. Les visages superposés à celui de la vraie Lucille disparurent. Des ressemblances, mais pas le même. Jamais plus le même.
Imprégnatrice.
Il devinait ce que cela voulait dire. Dans un élan typique du vrai Duncan Idaho, il l'interpella.
C'est mon enfant que vous voulez porter dans votre ventre, imprégnatrice? Je sais qu'on ne vous appelle pas mère pour rien. »
Nous discuterons de cela une autre fois, répondit froidement Lucille.
Que ce soit dans un endroit agréable au moins, fit Duncan.
Je vous chanterai peut-être une chanson, pas avec autant de talent que Gurney Halleck l'aurait fait, mais assez pour créer une atmosphère propice à une petite partie de jambes en l'air.
Vous trouvez cela amusant?
Amusant?
Non, mais c'est vrai que je pense à Gurney.
Dites-moi, Bachar, l'avez-vous également rappelé d'entre les morts?
Pas à ma connaissance, répondit Teg.
Ah, voilà quelqu'un qui savait pousser une chanson. Il était capable de vous tuer en chantant sans faire une seule fausse note.
Sans se départir de son attitude glacée, Lucille déclara
« Au Bene Gesserit, nous avons appris à éviter la musique. Elle fait appel à trop d'émotions déroutantes. Des émotions liées à la mémoire, naturellement. »
Elle voulait l'impressionner par le rappel de la mémoire seconde et de tous les pouvoirs Bene Gesserit que cela impliquait, mais Duncan ne fit qu'éclater d'un rire encore plus sonore.
« Quelle pitié ! » s'écria-t-il.
« Vous perdez ce qu'il y a de meilleur dans l'existence. »
Et il se mit à fredonner un vieux refrain de Gurney Halleck. « Retrouver les amis, les légions engourdies. » Mais ses pensées tourbillonnantes l'emportèrent vite dans une autre direction, riche de la saveur nouvelle de ces instants revenus à la vie. Une fois de plus, il ressentit la présence avide de quelque chose d'énorme qui demeurait enfoui en lui. Quoi que ce fût, c'était chargé d'une violence extrême. Et cela concernait Lucille, l'imprégnatrice. En imagination, il la voyait morte, baignée de sang.